Et dites-moi, on va parler gros sous, Anaïs. Ce soir, on commence avec les Salvadoriens, dont on sait déjà qu'ils sont amateurs de Bitcoin et qui commencent à être un peu inquiets de cette volatilité.
Mais oui, ici dans les rues du centre historique de San Salvador, le Bitcoin, c'est encore très abstrait. Alors, on en a parlé ici, hein. Depuis le 9 juin, les Salvadoriens peuvent utiliser cette monnaie virtuelle. L'idée, c'est d'arrêter de perdre des millions de dollars en taux de change. Le Salvador, c'est ce pays d'Amérique latine qui perçoit le plus gros volume d'argent de sa diaspora, qui vit en majorité aux États-Unis. Cet argent qui vient de l'extérieur, c'est 24% du PIB. Alors, où en est-on aujourd'hui, après l'enthousiasme du début, bien un peu dubitatif, les Salvadoriens, à cause de la volatilité du Bitcoin. Il vient de plonger aujourd'hui sous les 30 000 dollars pour la première fois depuis janvier, à cause de la Chine, première productrice mondiale, et qui vient d'interdire le mining. Le mining de crypto-monnaies dans certaines régions. Là, c'est comme ça qu'on les fabrique, hein, les bitcoins.
D'accord.
La Chambre de commerce et d'industrie du Salvador vient de publier une étude. 96% des hommes d'affaires du pays préfèrent que l'utilisation du bitcoin soit facultative et 93% des salariés préfèrent qu'on les paye en dollars. Chez les vendeurs de rue comme cette femme qui vend des chapeaux dans le centre de San Salvador, inutile de dire qu'elle voit le bitcoin d'un mauvais œil. Et comment les gens vont acheter chez moi si je ne peux pas utiliser le bitcoin? On dit qu'on n'utilisera plus d'argent liquide. Ça va nous affecter et tous les vendeurs disent la même chose. Qu'est-ce qu'on va faire? La semaine dernière, la Banque mondiale a refusé de soutenir le Salvador qui voudrait utiliser le bitcoin comme devise légale pour toutes les transactions. Grande prudence aussi du FMI, sans compter la dimension environnementale du bitcoin. Et là, on ne parle plus du Salvador, mais de Tesla qui n'acceptera les paiements en crypto-monnaie que lorsqu'elle sera devenue moins polluante.
185 millions de dollars par an maintenant, c'est le prix de l'or au Cambodge.
Oui, le pays a débuté hier l'exploitation de sa première mine d'or. C'est un vrai serpent de mer. Le projet était dans les cartons depuis 14 ans. L'entreprise australienne Emerald Resources a reçu une licence exclusive. Et l'agence de presse cambodgienne communique sur cette grande réalisation, comme l'appelle le Premier ministre au pouvoir depuis 36 ans. Dans ce petit spot diffusé sur les réseaux sociaux, hein, belle musique martiale, on apprend que la mine doit produire 3 tonnes d'or pur par an pendant 8 ans. Le gouvernement cambodgien espère recevoir des revenus fiscaux de 40 millions de dollars par an. On voit encore sur ce diaporama des installations minières, des convoyeurs, des camions, des terrassements importants. Parce que pour ces mines, il a fallu tailler dans la forêt verdoyante, dans la région de Mondulkiri. La population locale s'inquiète de l'impact du projet sur l'environnement. Elle accuse le pouvoir de soutenir des projets qui servent en fait de couverture à une déforestation massive.
En Suède, Anaïs, pour terminer, une première dans l'histoire politique du pays, le Premier ministre a été renversé par un vote de défiance.
Oui, le social-démocrate Stefan Löfven. Toutes les voix de l'ex-parti communiste se sont jointes à celles de la droite et de l'extrême droite hier au Parlement. Et donc, surprise, la censure a été votée. Et c'est ce qu'annonce le président du Parlement suédois, Andreas Norlén. Voilà, d'abord un gros coup de marteau. Le vote a été de 181 pour, 109 contre et 51 abstentions. Je constate que la Chambre approuve le vote de défiance à l'encontre du Premier ministre. Et recoup de marteau. Hein, voilà. C'est même un gros coup de tonnerre pour le Premier ministre, premier chef d'un gouvernement renversé. Il n'y a eu que 11 votes de défiance dans l'histoire politique suédoise, tous infructueux. Alors, quel rapport avec les gros sous?
Oui,
dont on parle depuis
Anaïs.
Le début. Ce qui fait tomber le gouvernement, c'est un projet de réforme des loyers encadrés, un pilier du modèle social suédois. En Suède, les loyers sont négociés entre l'association qui représente 3 millions de locataires et les propriétaires. La coalition au pouvoir voulait libéraliser les loyers pour les logements neufs, réforme avec impact minime, a prévenu le gouvernement. Mais la ligne rouge a été franchie pour le parti de gauche, qui chiffre la hausse des loyers à plus de 3 milliards d'euros à l'État en allocation logement. En tout cas, pour l'instant, en Suède, le Premier ministre a une semaine pour décider. Soit il démissionne, soit il convoque de nouvelles élections.
À suivre, merci beaucoup. Anaïs Feugas, sous les radars, tous les soirs, dans Un jour dans le monde.